Monsieur Laborie, vous êtes médecin. Et, j'allais dire, scientifique et médecin.
C'est amusant. Effectivement, la médecine est peu scientifique, ou du moins elle a été pendant très longtemps très peu scientifique. Enfin, vous êtes responsable de ce que vous venez de dire. Je suis médecin, bien sûr, ma formation est médicale. Donc j'ai été médecin au départ, j'ai été même spécialiste et chirurgien des hôpitaux de la marine. Et puis, il y a 25 ans, j'ai abandonné la chirurgie pour faire de la recherche. Et ayant été à 35 ans à l'origine d'une découverte qui a fait le tour du monde, qui beaucoup de gens s'accordent à considérer avoir été à l'origine de ce qu'on appelle la neuropsychopharmacologie, c'est-à-dire de l'action de l'homme sur le fonctionnement nerveux débouchant sur l'action sur son comportement, avec l'introduction en médecine et dans les différentes disciplines médicales de ce qu'on appelle la chlorpromazine, connue en France sous le nom de Largactil et que beaucoup de gens disent appellent le premier tranquillisant. En fait, ce n'est pas un tranquillisant, c'est une erreur. Enfin, grossièrement, ça, on comprend ce qu'on veut dire. Je me suis intéressé, si vous voulez, de plus en plus à la réaction de l'organisme, des organismes vivants et de l'organisme humain, bien sûr, à l'environnement. Et je me suis occupé, d'une part, de ce qu'on appelle le choc, les états de choc, et d'autre part, du système nerveux. Alors ça m'a amené pas à pas à essayer de comprendre avec... évidemment, tout le travail qui a pris naissance à cette époque-là dans le monde entier, et puis mon propre travail, bien sûr, à mieux comprendre le fonctionnement du système nerveux humain, et à partir d'un certain moment, le système nerveux, il n'est pas dans le vide, il ne fonctionne pas dans le vide, l'individu qui l'anime ne se déplace pas dans le vide, et il se déplace dans un milieu social, ce qui m'a fait déboucher, avec des bases entièrement nouvelles, sur la psychologie, la sociologie, l'économie et la politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sciences humaines, mais sciences humaines qui, jusque-là, je crois, grossièrement, avaient été des sciences du langage et n'avaient pas pris leur base dans le fonctionnement des niveaux d'organisation de la molécule jusqu'au fonctionnement global du système nerveux en situation sociale. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que depuis qu'il y a des hommes sur cette planète, ils ont regardé autour d'eux, ils ont vu le monde qui les environnait, ils se sont considérés comme ne faisant pas partie de ce monde, comme d'essence étrangère, parce que leur conscience leur faisait croire qu'ils étaient, séparés, ils étaient le roi de la création, de l'univers, etc. Et ils n'en faisaient pas partie intégrante, alors qu'en réalité... tous les organismes vivants et celui de l'homme aussi est fait des mêmes atomes que la matière inanimée. C'est simplement l'organisation de ces atomes qui fait qu'ils sont en matière vivante et pas en matière inanimée. De toute façon, ce qui est le résultat de ce comportement déjà a été de créer au fond les sciences physiques et la thermodynamique. Mais il y a une chose fondamentale que possède le cerveau humain sur toutes les autres espèces, c'est qu'il a certaines régions qui sont organisées de telle façon qu'il est capable de créer de l'information. Je prends le terme d'information non pas sous l'angle de masse média, mais dans la signification de mettre en forme. Quand un monsieur du paléolithique cassait des cailloux, il aurait pu faire des petits cailloux, des tas de petits cailloux. Mais en réalité, il faisait des pierres taillées qui lui servaient à faire des outils et des armes. Il mettait en forme le silex, il informait le silex pour en faire quelque chose qui était son industrie. Au début, ce système nerveux lui permettant d'ajouter de l'information lui a permis de dominer le monde physique. Mais insensiblement, il s'est rendu compte du pouvoir qu'il avait. Avec cette création d'informations, il s'en est servi pour établir ces échelles de dominance qui, chez l'animal, sont établies sur la force, simplement. C'est le plus fort qui gagne. Alors que chez l'homme, c'est l'information de plus en plus abstraite, et actuellement, c'est grâce à la possibilité, avec cette information mathématique et physique, les lois physiques et mathématiques, de construire des machines depuis l'ère industrielle, permettant de faire de quantités d'objets en peu de temps, alors que Il y a quelques siècles encore, enfin quelques années, l'information qui était placée dans le système nerveux, la mise en forme du système nerveux d'un individu par l'apprentissage, était obligée pour faire un objet de ressortir de cet individu régulièrement. Là, on met l'information dans une machine et on fait à la file sans jamais plus réintroduire cette information. Il y a une fois pour toutes des millions d'objets. Et moyennant quoi, on établit sa dominance par la vente de marchandises. Et c'est ce qu'on appelle la société de consommation, qui en fait est une société de production. Or tout ça, ça existe parce que le cerveau humain s'étant cru séparé du reste du monde, comme je vous disais tout à l'heure, a, par son langage, donné des alibis logiques à ce qu'il ne comprenait absolument pas, et c'est pourquoi on est encore à se bagarrer entre spiritualiste et matérialiste. Il a couvert d'un discours logique tout son inconscient qui, par définition, est inconscient. Or, cet inconscient s'est fait d'un fonctionnement nerveux avec des régions très primitives, des pulsions, des automatismes culturels. Dès l'enfance, on apprend à l'enfance ce qu'il doit faire, quelles sont les valeurs qu'il doit conserver, et puis il ne faut pas qu'il y change quoi que ce soit, parce que toute l'échelle des dominances en serait perturbée. Et finalement, ce discours logique a toujours couvert, excusé, donné des alibis aux guerres, aux génocides, c'est-à-dire à l'expression, au fond, des aires préhominiennes qui existent encore dans le système nerveux de l'homme et dont il n'a pas conscience. Beaucoup de gens sont persuadés que le discours logique est la réalité. En fait, voyez-vous, dans un laboratoire, on a beaucoup de discours logiques, on appelle ça des hypothèses de travail, et quand on passe à l'expérimentation, on s'aperçoit qu'elles ne collent pas du tout avec la réalité. Et cependant, elles sont parfaitement logiques. C'est parce que la logique du rêve, par exemple, existe, mais elle est sous-tendue par une biochimie complexe, par une neurophysiologie aussi complexe, d'où résulte un fonctionnement nerveux, inconscient. Et ce langage-là, il a sa logique, mais elle n'a rien à voir avec la logique formelle, la causalité qui est utilisée par la majorité des sociologues, des économistes ou des politiques. Et c'est l'introduction de ce nouveau discours logique dans le comportement humain que j'ai cherché.